Pinocchio, suivi de quelques contes de Grimm, 7e cassette, 2e face, La tombe.
Un riche paysan se tenait un jour dans la cour de sa ferme et contemplait ses champs et ses terres. La moisson était magnifique et les vergers pliaient sous les fruits. Ses greniers regorgeaient si lourdement des récoltes précédentes que c'était tout juste si les grosses poutres pouvait emporter la charge. Dans les étables et les écuries qu'il alla inspecter, il n'y avait que bœufs gras, vaches bien nourries et chevaux magnifiques à la robe luisante. Rentrant chez lui, il jeta un coup d'œil sur ses coffres, pleins à craquer de son argent. Il contemplait ainsi ses richesses quand on frappa violemment non loin de lui. Mais ce n'était pas à la porte de la chambre qu'on frappait comme il le crut tout d'abord. C'était à la porte de son cœur qui s'ouvrit. Il entendit alors une voix lui demander : As-tu fait le bien avec ce que tu as ? As-tu songé aux pauvres dans le besoin ? As-tu partagé ton pain avec ceux qui ont faim? T'es-tu contenté de tes richesses ou bien en voulais-tu toujours davantage? Son cœur n'eut pas d'hésitation et répondit honnêtement. J'ai été dur et impitoyable et jamais je n'ai fait de bien à mes semblables. Quand approchait un pauvre, je détournais les yeux. Je n'ai jamais pensé à Dieu, mais seulement à multiplier mon or et à accroître toujours plus ma richesse. Insatiable, si j'avais possédé tout ce que peut recouvrir le ciel, je n'en aurais pas encore eu assez. En entendant cette réponse de son cœur, l'homme fut pris d'épouvante et ses genoux se mirent à trembler si fort qu'il dut s'asseoir, et il entendit frapper de nouveau. Mais cette fois, c'était à la porte de sa chambre, et c'était son voisin, un pauvre qui avait une kyrielle d'enfants, auquel il n'avait plus rien à donner à manger. « Je sais que mon voisin est un homme riche, mais dur, avait-il pensé. Je ne crois pas qu'il m'aidera. Mais mes enfants pleurent la faim et il faut que j'essaye. Je sais que vous ne lâchez pas facilement ce qui vous appartient, dit-il aux riches. Mais je suis comme un homme qui se noie. Mes enfants sont affamés. Prêtez-moi 4 boisseaux de blé. Le riche le considéra un long moment, puis un premier rayon du soleil de la compassion dégela une première goutte de la glace de son cœur que gelait la cupidité. Je ne vais pas t'en prêter 4 boisseaux, dit-il. Je vais t'en donner et t'en donner 8. Mais à une condition. Que dois-je faire ? Demanda le pauvre. Venir 3 nuits de suite veiller sur ma tombe après ma mort. Le pauvre en frissonna d'avance, mais il aurait accepté n'importe quoi dans sa détresse, et il accepta donc en portant les 8 boisseaux de blé chez lui. 3 jours plus tard, c'est à croire qu'il l'avait pressenti secrètement, le riche mourut de mort subite et sans qu'on sût comment. Nul ne le regretta, mais lorsqu'il fut enterré, le pauvre se rappela sa promesse à laquelle il aurait bien aimé se soustraire. Mais il se raisonna. « Il s'est montré charitable avec moi, se dit-il. J'ai pu nourrir mes enfants de son grain. Et même sans cela, puisque j'ai promis, je dois tenir. » À la tombée de la nuit, il se rendit au cimetière et s'assit sur la tombe. Tout était calme sous le clair de lune qui brillait sur les tombes, et parfois une chouette s'envolait en ululant lugubrement. Ouhouhou ! Ouhouhou ! Dès que le soleil pointa, le pauvre se releva et rentra chez lui sans avoir eu d'alerte ni subi de danger. Il en alla de même pour la seconde nuit qui s'écoula sans dommage. Mais quand il reprit sa funèbre veillée pour la troisième fois, le pauvre se sentait plein d'appréhension et avait le pressentiment qu'il allait se passer quelque chose. Comme il s'approchait du cimetière, il vit un homme contre le mur, quelqu'un qu'il n'avait jamais vu. Il n'était plus jeune, avait des yeux mobiles et luisants, et un visage tout couturé de cicatrices. Du grand manteau qui l'enveloppait entièrement, on ne voyait sortir que ses bottes de cavalier. Que venez-vous chercher par ici ? L'interpella le paysan. Ce cimetière solitaire, cela ne vous fait-il pas frissonner ?
Je ne cherche rien et je n'ai peur de rien, répondit l'homme. Je suis un simple soldat, licencié de l'armée, et je compte passer la nuit ici, n'ayant pas d'autre endroit où coucher.
Si vous êtes sans peur, lui proposa le paysan, restez donc avec moi et tenez-moi compagnie à veiller sur cette tombe-ci.
Montez la garde, c'est l'affaire du soldat, répondit l'autre. Allons-y, nous serons deux pour en subir les conséquences, bonnes ou mauvaises.
Le paysan acquiesça et ils allèrent tous les deux prendre place sur la tombe fraîche. Rien ne bougea jusqu'à minuit. Mais alors retentit un coup de sifflet et les deux veilleurs virent apparaître devant eux le malin, c'est-à-dire le diable en personne.
« Allez-vous-en d'ici, gredin !» dit le diable. « Celui qui gît dans cette tombe m'appartient. » « Je viens le chercher, et si vous ne décampez pas au plus vite, je vous tords le cou. »«
Oh, mon beau seigneur à la plume rouge !» lui répondit le soldat. « Vous n'êtes pas mon capitaine, et je n'ai pas besoin de vous obéir. Quant à ce qui est de la peur, je n'ai pas encore appris ce que c'est. Aussi, passez votre chemin. Nous restons ici. »
Le diable se dit que l'or serait un meilleur appât et aurait sûrement plus d'effet que ses menaces sur ces deux hommes qui étaient plutôt pauvres. Il baissa donc sérieusement le ton et leur demanda tout gentiment ce qu'ils diraient d'une bourse d'or pour consentir à s'en retourner chez eux.
« À la bonne heure, dit le soldat, mais une bourse, non, non, il nous faut plus d'or que cela. »
« Si vous nous donnez autant d'or qu'il peut entrer dans une de mes bottes, alors on vous laisse le champ libre et on s'en va. »«
Je n'en ai pas assez sur moi, répondit le diable, mais je vais aller en chercher. J'ai un bon ami à moi qui habite la ville voisine, un banquier qui m'en prêtera avec le plus grand plaisir. »
Dès que le diable eut disparu, le soldat tira la botte de son pied gauche et dit à son compagnon
« C'est le moment ou jamais de lui faire une bonne blague. Passe-moi seulement ton couteau, vieux frère. »
Il s'en servit pour couper et enlever la semelle de la botte qu'il posa ensuite dans l'herbe haute sur le bord d'une fosse à demi comblée.
« Tout est prêt » s'exclama-t-il. Il peut se ramener à présent le ramoneur.
Sur quoi, ils se réinstallèrent sur la tombe et l'attendirent. Le diable ne fut pas très long à revenir, tenant à la main un petit sac gonflé d'or.
Videz-le là-dedans, dit le soldat en soulevant un peu la tige de sa botte. Mais ça fera jamais assez.
Le diable vida son sac L'or passa au travers et la botte resta vide.
« Crétin de diable ! Je te l'avais bien dit que ça ne suffirait pas !» lui lança le soldat. « Oust ! Tu n'as plus qu'à aller en chercher d'autres et tâche d'en rapporter assez ce coup-ci. »
Le diable secoua la tête et s'en alla pour revenir une heure plus tard avec un sac déjà bien plus gros sous le bras.
« Verse-le toujours, dit le soldat, mais je doute que ça nous remplisse la botte. »
On entendit l'or tinter en tombant, mais la botte resta vide, et le diable y jeta lui-même un coup d'œil flamboyant pour s'en convaincre.
« Quel mollet insolemment développé !»
s'exclama-t-il en faisant une grimace.
« Monsieur croyait peut-être que j'avais un sabot fourchu comme lui ?» ironisa le soldat. « Et depuis quand faites-vous le rapia, l'avare ? Filez vite et ramenez-nous plus d'or, sinon le marché ne tient pas entre nous. »
Le démon décampa une nouvelle fois, mais son absence se prolongea beaucoup plus. Et quand il réapparut, il pliait sous le poids d'un gros sac d'or qu'il portait sur son dos. Il le déversa entièrement dans la botte, qui n'en fut pas plus rempli pour autant. Alors il se mit en grande colère et voulut arracher la botte des mains du soldat. Mais il dut s'enfuir en poussant un hurlement effroyable. Car juste à cet instant, le premier rayon du soleil levant venait de surgir à l'horizon. Le diable disparut. La pauvre âme du riche était sauvée. Le paysan proposa à son compagnon de partager l'or, mais le soldat lui répondit
« Tu n'auras qu'à donner ma part aux pauvres. J'irai vivre avec toi dans ta chaumière et nous serons heureux et tranquilles avec le reste aussi longtemps qu'il plaira à Dieu. »
Un autre conte de Grimm, le pauvre garçon meunier et la petite chatte. Dans son moulin vivait un meunier qui n'avait ni femme ni enfant. Il avait trois aides pour le servir. Il leur dit un jour, après qu'ils eurent travaillé chez lui pendant quelques années, « Je commence à devenir vieux et je voudrais rester au coin du feu. Je donnerai le moulin à celui de vous trois qui me ramènera le meilleur cheval et il devra s'occuper de moi jusqu'à ma mort. » Or, le troisième aide n'était qu'un petit valet que les deux autres considéraient comme stupide et qui n'avait pas à prétendre, estimaient les deux grands, obtenir le moulin. Il l'avait convaincu et lui-même y avait renoncé par avance. Ils n'en quittèrent pas moins le moulin ensemble, mais dès qu'ils arrivèrent à l'entrée du bourg, les deux autres dirent au nigaud : « Écoute, Jean, ce n'est pas la peine que tu ailles plus loin, puisque jamais, au grand jamais, tu n'arriveras à gagner un cheval. Tu n'as qu'à rester bien tranquillement ici. » L'autre ne voulut pourtant que les suivre, et lorsque vint la nuit, ils entrèrent tous les trois se coucher dans une grotte. Les deux gaillards attendirent seulement que le pauvre petit Jean fût endormi, se levèrent alors et s'en allèrent, le laissant seul, et se félicitant de leur ruse.
« Oui, oui, vous pouvez bien faire les malins, mes gaillards, mais cela n'ira pas mieux pour vous. »
Lorsque le soleil se leva et que le petit Jean se réveilla, en se voyant dans une sombre grotte, il jeta tout autour de lui des regards apeurés et s'écria
« Mon Dieu, mais où suis-je ? »
Il se leva, grimpa tant bien que mal jusqu'à l'entrée de la caverne, et partit dans la forêt en se disant « Seul et abandonné comme je suis, comment ferai-je pour avoir un cheval ?» Tout plongé dans ses tristes pensées, il allait droit devant lui et sans trop savoir où, quand il fit la rencontre d'une petite chatte qui lui adressa gentiment la parole.
« Petit Jean, où vas-tu comme ça ?»
« Oh !» lui répondit-il, « tu ne peux pas m'aider en tout cas. »
Ton désir et ton vœu, je les connais pourtant, dit la petite chatte. Tu voudrais un très beau cheval. Viens avec moi et sois pendant 7 ans mon serviteur fidèle. Je te donnerai le plus beau cheval dont tu aies jamais pu rêver de ta vie. Cette petite chatte est un animal bien surprenant, se dit le petit Jean. Mais je veux quand même voir si ce qu'elle dit est vrai. Il la suivit donc et elle l'emmena dans son petit château enchanté où il n'y avait que des chats à son service. Un grand nombre de petits chats qui n'arrêtaient pas de grimper ou de dévaler les marches, l'humeur joyeuse, toujours prêts à s'amuser. Le soir, quand ils se mirent à table, il y en eut 3 qui firent de la musique. L'un jouait de la contrebasse, un autre du violon, et le troisième de la trompette, en gonflant ses petites joues du mieux qu'il le pouvait. Après le repas, la table fut desservie et la petite chatte invita Jean à danser avec elle. « Viens maintenant, mon petit Jean, nous allons danser tous les deux. »«
Non, dit Jean, je ne danse pas avec une minette, je ne l'ai jamais encore fait. »«
Alors, mettez-le au lit. » commanda la petite chatte à ses petits chatons qui l'accompagnèrent à sa chambre. Un alluma la bougie, un autre lui enleva ses chaussures, un autre lui tira ses chaussettes et le dernier souffla la lumière. Le lendemain matin, ils revinrent tous et le servirent à son lever. L'un lui mit ses bas, un autre ses jarretières, un autre ses souliers. On le lava, puis on lui essuya le visage avec la queue. Et Jean ne put s'empêcher d'exclamer « Ouh, comme c'est doux !» Mais lui-même devait aussi servir la petite chatte et lui casser son petit bois chaque jour. Pour cela, il disposait d'une hachette d'argent, de coins d'argent et d'une scie d'argent avec une lame de cuivre. Bon, il coupait son bois menu et ne quittait pas la demeure où il ne voyait jamais personne hormis la chatte et les divers chatons qui étaient à son service. Un jour, elle lui dit d'aller faucher son pré et de bien faire sécher le foin. Il reçut pour cela une faux d'argent, une fourche et un râteau d'argent, tout ce qu'il lui fallait, et tout était d'argent, sauf la pierre à aiguiser la faux, qui était d'or. Et la chatte lui fit la recommandation de tout bien rapporter quand il aurait fini. Il sortit donc pour faire ce qu'il avait à faire et ce qu'on attendait de lui. Et quand il eut terminé, il rapporta la faux d'argent et sa pierre d'or, les autres outils d'argent, rentra soigneusement le foin, puis demanda à la petite chatte s'il ne pourrait pas maintenant recevoir sa récompense. « Non, pas encore, lui dit-elle. Tu dois d'abord faire encore quelque chose pour moi. Tu as là du bois de charpente en argent, l'équerre, les haches, les rabots et les autres outils, tous en argent, et j'attends que tu me construises une petite maison. » Petit Jean construisit la maisonnette et quand il eut tout terminé, il dit à la chatte qu'il avait fait maintenant tout ce qu'il y avait à faire, mais qu'il n'avait toujours pas le cheval. Ses 7 ans étaient entièrement écoulés, bien qu'il lui parût n'avoir pas duré plus de 6 mois. La chatte lui demanda s'il voulait voir son cheval. « Oh oui !» « J'aimerais bien, » dit Jean. La chatte ouvrit pour lui la petite maison et dès qu'elle eut ouvert la porte, il vit à l'intérieur 12 chevaux superbes, piaffants, lustrés, des bêtes de race, d'une telle allure que votre cœur s'envolait de joie rien qu'à les voir. La chatte donna à Jean de quoi manger et de quoi boire, puis elle lui dit « Va !» « Rentre chez toi. Je ne te donne pas ton cheval tout de suite. Dans 3 jours, je viendrai moi-même et je te l'amènerai. » Alors Petit Jean se mit en route et elle lui indiqua le chemin du moulin. Mais elle ne lui avait jamais changé son habit, ni la vieille blouse qu'il avait toujours portée et qui était en loques après ses 7 années de service, toute déchirée et salie, mais surtout bien trop petite, car il avait grandi. Les deux autres garçons meuniers étaient déjà revenus quand il arriva lui-même au moulin. Chacun des deux avait ramené son cheval. L'un avait la gale avec des plaies saignantes partout et purulentes, il perdait ses poils, et l'autre était estropié et boitait d'au moins 2 pieds.
Petit Jean, où est ton cheval?
Commencèrent-ils tout de suite à lui demander.
Il sera là dans 3 jours, on va me l'amener, répondit-il.
Ils se moquèrent de lui et lui dirent en riant.
Ha ha ha, sacré Jean, mais d'où veux-tu avoir un cheval, toi? Oh, ça va être quelque chose de bien, ton cheval.
Lorsqu'il entra dans la chambre, le meunier lui dit qu'il ne voulait pas d'un loqueteux pareil à sa table, que ce serait une honte si quelqu'un entrait et le voyait. Ils le firent donc manger dehors, où ils lui apportèrent un tout petit quelque chose, oh, juste de quoi ne pas mourir de faim. Puis le soir, quand ce fut l'heure d'aller au lit, les deux autres ne voulurent pas de lui non plus, et il fallut finalement qu'il allât dormir avec les oies sur un lit de rude paille qu'il dut se faire par terre. Le matin, quand il se réveille, les 3 jours sont déjà passés. Et voici qu'arrive un carrosse attelé de 6 chevaux. Mais alors là, c'est quelque chose à voir. Des bêtes merveilleuses, brillantes comme des miroirs. Et derrière, il y en a encore un 7e que conduit un laquais. Et celui-là, c'est le cheval du pauvre Ed Meunier. Une superbe princesse est descendue du carrosse. Et elle entre au moulin. Mais cette princesse, tu l'as peut-être deviné, c'est la petite chatte que le brave Petit Jean a servie pendant 7 ans. Elle demande au meunier où est son aide, le petit valet.
Lui, on ne pouvait pas le laisser entrer, sale et tout déchiré comme il est, répondit le meunier. Il a couché avec les oies là-bas.
La princesse dit qu'il faut le faire venir tout de suite et ils vont le chercher. Mais lui, pour venir, il faut qu'il tienne les lambeaux de sa blouse pour essayer de s'en couvrir plus ou moins. Le serviteur va lui chercher un vêtement splendide et lui faire sa toilette et l'en revêtir au plus vite. Et quand il est habillé de la sorte, il est plus beau qu'un roi. La belle demoiselle demande alors à voir les chevaux que les autres ont ramenés. L'un qui a la gale, l'autre qui est estropié. Elle envoie son serviteur chercher le 7e cheval. Et quand le meunier l'aperçoit, il s'exclame en disant que jamais un cheval aussi beau n'est entré dans sa cour. Jamais, jamais, de toute sa vie de meunier. Celui-là, dit la princesse, c'est pour votre petit commis, le pauvre Petit Jean.
Et pour lui aussi le moulin, ajoute le meunier.
Mais la princesse répond qu'il a le cheval
et que le moulin, il peut le garder aussi. » Elle emmène son fidèle Jean et le fait monter dans le merveilleux carrosse qui s'éloigne, et adieu. Ensemble, ils ont fait le voyage jusqu'à la petite maisonnette qu'il avait bâtie de ses mains avec les outils d'argent. Et voilà que c'est maintenant un château superbe et grandiose, où tout est d'or et d'argent. C'est là qu'elle l'a épousé, et il est devenu riche, si riche que de toute sa vie, il n'aura jamais besoin de rien. C'est pour cela que personne n'a le droit de dire de quelqu'un qu'il est trop bête pour finir bien. Et ce qui est mieux, un dernier conte de Grimm, très court, Le renard et les oies. Un renard tomba un jour au beau milieu d'un troupeau d'oies, bien grasses et bien dodues, qui paissaient dans un champ. Il éclata de rire et dit « Ah ah ah, on ne pourrait arriver mieux à point. On croirait que vous m'avez appelé, mes jolies, à vous voir toute là, bien gentiment, à attendre que je vous croque l'une après l'autre. » Tout le troupeau se mit à caqueter d'épouvante, tête dressée, et ce fut un concert de lamentations et de supplications pour obtenir la vie sauve. Le renard ne se laissa pas attendrir pour si peu. « Il n'y a pas de grâce qui tienne, leur dit-il, et vous allez toutes mourir, toutes être mangées. » Pour finir, il y eut une oie qui rassembla tout son courage et qui lui dit « Puisqu'il est dit que nous devons mourir toutes dans la fleur de notre jeunesse, malheureuses oies que nous sommes, tu nous accorderas au moins la grâce que personne n'oserait refuser à personne, et tu vas nous laisser faire notre prière, afin que nous ne mourions pas en état de péché. Après, eh bien, nous nous alignerons en bon ordre, et tu n'auras qu'à choisir au fur et à mesure la plus grasse et la meilleure à ton goût. « Oui, dit le renard, c'est une juste requête et une pieuse intention. Faites donc votre prière. J'attendrai. » Alors, la première commença avec ses « quand, 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 quand » une longue, mais vraiment longue litanie qui n'en finissait pas. Et « quand, 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 quand » si longue et si interminable que la deuxième n'attendit pas la fin pour prier à son tour. Elle commença elle aussi « quand, 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 sa litanie interminable. Et la troisième à son tour commença sans attendre son tour. Puis la quatrième et enfin toutes les autres. Quand, 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 toutes les oies du troupeau prièrent et caquetèrent ensemble la litanie des oies. Et quand elles auront fini, on pourra vous raconter la fin du conte. Mais pour le moment, elles sont toujours en train de prier. Quand, 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 quand. Je crois que tu es mieux que j'arrête, hein? Alors bon. Alors c'est la fin de la deuxième face de cette septième cassette. J'espère que tu as bien aimé l'histoire de Pinocchio et puis les quelques contes de Grimm que j'ai mis pour finir la dernière cassette. Au revoir.